Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1.
Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin, donc 2h ensemble, 2h pour nous parler, comprendre, nous transformer même au contact les uns des autres. J'ai maintenant de longues années de pratique en tant que psychologue derrière moi et j'ai souvent remarqué qu'un seul mot, une seule phrase, pouvait tout changer. Et si c'était ce soir, pour vous, pour nous, alors nous attendons vos appels au 3921, vos réactions, vos mots, au 739-21 par SMS, en commençant vos messages par le mot « nuit ». C'est Amandine et Hassan qui sont là pour vous accueillir ce soir. Et puis, c'est Nicolas qui est aux manettes. Vous êtes sur Europe 1, c'est la Libre Antenne. Et c'est parti !
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne.
Et c'est Élodie qui nous rejoint pour commencer cette soirée ensemble. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Sabrina.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous surtout. Je ne sais pas trop par quoi commencer en fait, c'est un petit peu compliqué.
Oui. Ce qui vous a motivé peut-être à nous appeler.
Oui. En fait, je me sens un petit peu piégée dans une relation qui devient de plus en plus toxique. Avec mon compagnon qui est de plus en plus violent envers moi. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire.
D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette relation ?
Ça va faire 2 ans. Au début, j'ai envie de dire tout se passait bien, mais ça a commencé assez tôt, en fait. Des épisodes de violence, mais bon, qui étaient... on casse une porte, on jette un objet ou des choses comme ça. Souvent liées à des épisodes de jalousie.
Oui.
Et ça s'est un petit peu intensifié avec le temps.
Un petit peu ou beaucoup ?
Disons beaucoup, puisque donc il y a 2 semaines, ça s'est terminé en violence physique. C'était le jour de son anniversaire et il avait beaucoup bu. Et donc ça s'est terminé assez mal avec les policiers à la maison. J'étais à l'hôpital. Et voilà, lui était dans le déni pendant 24 heures après.
Comme et, souvent.
Ouais. Comme souvent, et c'est ce qu'on m'a dit. Mmh. Et donc le problème, c'est que cette personne est au chômage. Je lui ai demandé de partir, en fait, et donc il me répond qu'il ne peut pas trouver de logement. Donc là, il vit chez moi, en fait, c'est mon appartement, le bail est à mon nom. Et il me dit qu'il ne peut pas partir. Je lui ai demandé en fait de faire une pause, on va dire, dans un premier temps, puisque en fait le problème c'est que j'ai peur de tout ce que je peux lui dire. En fait, j'ai peur de ses réactions. Donc je ne sais jamais trop sur quel pied danser. Je ne sais jamais si je peux lui dire vraiment ce que je pense ou pas. Donc je lui ai demandé de faire une pause et il est parti chez un ami quelques jours. Après, j'ai toujours des sentiments pour cette personne. Elle a des problèmes. Elle a sans doute problèmes comme tout le monde. Mais voilà, je pense que cette personne a accumulé beaucoup de colère, beaucoup de haine ces derniers temps. Et en fait, la seule personne qui prend, c'est moi.
Et vous trouvez ça normal, vous, de prendre ?
Non. Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment, mais je lui trouve toujours des excuses, en fait. À chaque fois, et c'est vrai que dans mon esprit, là, depuis qu'il est parti, c'est vraiment un jour, enfin, c'est blanc, c'est noir, je lui trouve des excuses, ensuite je trouve ça impardonnable. Je passe par tous les états d'esprit. Et au final, je ne sais pas du tout quoi faire quand il va rentrer. en fait, c'est quelqu'un avec qui, on va dire, j'ai une. une connexion assez forte, on a une relation très fusionnelle. On est musiciens tous les deux, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc voilà, on fait de la musique ensemble. C'est pareil, je pense aux gens avec qui on fait de la musique. Et j'ai pas trop envie de leur annoncer que bah, on se sépare, que tous les projets qu'on a ensemble se terminent, etc. Donc il y a ça aussi. La famille, c'est compliqué aussi. Comme dans toute rupture, même une rupture normale, je veux dire, c'est toujours difficile d'annoncer à la famille et tout, mais là, c'est encore pire, quoi. Et donc, je sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas si je dois l'aider, en fait, si je dois l'aider à consulter déjà pour ses problèmes d'alcool et puis pour ses problèmes de dépression, ou si je dois tout simplement fuir.
À votre avis?
On me dit de fuir. Enfin, le peu de personnes à qui j'en ai parlé jusqu'à présent, bien sûr, hein, moi, c'est clair que si quelqu'un me racontait ça de l'extérieur, je dirais la même chose.
Sauf que vous n'êtes pas à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur de cette relation. C'est ce qui change tout, bien évidemment.
C'est ça.
Je peux me permettre c'est de vous ça, demander votre âge, Élodie? Vous avez quel âge?
J'ai 34 ans.
34 ans. Donc, vous l'avez rencontré à 32 ans.
C'est ça.
Oui. Vous n'avez pas d'enfant? Vous n'avez pas...
Non, j'ai pas d'enfant. J'étais mariée, divorcée, et puis ensuite j'étais dans une relation, on va dire, des plus platoniques pendant 2 ans. c'est bien, ça m'a apaisée. Et puis j'ai rencontré cette personne qui était tout l'inverse, qui m'a fait vibrer, qui m'a sorti de l'amorosité de mon quotidien, voilà. C'est quelqu'un de créatif, de un peu extravagant, enfin voilà. Et du coup, j'ai quitté la personne avec qui j'étais avant pour lui, quoi. Et voilà. Alors c'est pareil, je me dis, après toutes ces relations finalement qui ne me conviennent pas, j'ai toujours pas d'enfant à 34 ans. Alors, on en a parlé avec mon compagnon actuel. Lui, depuis le départ, il est partant. Et puis moi, bah forcément, plus le temps passe et plus je me dis que bah c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, dans l'état actuel des choses, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai cette peur aussi de perdre du temps qui est précieux. Voilà.
Bon. Les relations que vous avez eues avant, Élodie, oui. Est-ce que vous êtes retrouvée déjà dans ce type de situation? Vous étiez avec quelqu'un qui avait de la violence?
Absolument
qui vous
dénigrait?
Jamais?
Absolument pas, jamais. C'était plutôt l'inverse, en fait. Les anciennes relations, c'était plutôt des hommes très gentils ou trop gentils, on va dire. Peut-être un peu soumis aussi. Et là, effectivement, c'est tout l'inverse. C'est la première fois que je suis dans une relation où on me domine, enfin, on me domine. Dans le quotidien, c'est pas vraiment... Enfin, vu qu'il était au chômage, c'est vrai que c'est lui qui, par exemple, faisait à manger, faisait plus souvent le ménage que moi. Enfin, moi, je travaille beaucoup. Et alors, c'est peut-être ça aussi, justement, qui le plaçait... Enfin, qui lui créait un complexe d'infériorité par rapport à moi, du fait que moi, j'ai un travail et pas lui, et du fait qu'il s'occupe des tâches ménagères, par exemple, des choses comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment aussi, ça lui est monté à la tête. Enfin, voilà, mais effectivement, c'est la première fois que je suis coincée dans une relation comme ça.
Vous manquez de confiance en vous ou pas du tout? Vous vous sentez comment par rapport à votre confiance en vous?
Ben, j'ai jamais eu très, très confiance en moi. Enfin... Les gens qui me côtoient, mes collègues ou mes amis, pensent le contraire. mais c'est pas le cas du tout.
À l'intérieur de vous, vous n'avez pas confiance?
Non, non, non. J'en suis consciente.
La relation que vous avez avec vos parents, elle est comment? Votre mère, votre père?
Mon père, j'ai plus trop de nouvelles. Ça fait des années. Il est parti quand j'avais 4 ans. Et bah, je l'ai vu en fait dans mon enfance, je le voyais de temps en temps et puis de moins en moins. Il ne se préoccupe pas trop de ce que je deviens, il a refait sa vie. Et ma mère est seule, Elle m'a élevée seule. Elle a beaucoup travaillé, donc je ne l'ai pas beaucoup vue quand j'étais petite. Et sinon, je la vois régulièrement. Et on va dire que les plaies du passé se sont refermées après toutes ces années. Mais...
C'est-à-dire les plaies du passé ?
Le fait que j'étais souvent seule, c'est vrai qu'elle travaillait beaucoup. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'elle a eu aussi une relation avec un homme qui était un petit peu violent. Enfin, moi, je le ressentais plus que je ne le voyais. Il n'habitait pas chez nous, mais je l'ai ressenti. Et puis c'était quelqu'un aussi qui buvait beaucoup. Et donc il y avait des réactions assez imprévisibles. Mais bon, avec ma mère, ça va, ça se passe bien. On a une relation assez saine aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que je sais très bien que le fait de pas avoir eu un père, ça a toujours marqué en fait mes relations avec les hommes. J'ai toujours cherché un remplaçant. Hein, je le sais très bien. Et je suis passée de relation en relation parce que finalement, je n'ai jamais trouvé. C'est l'impression que j'ai.
Vous voyez, je pense, Élodie, que dans tout ce que vous avez dit là, il y a le nœud de votre problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez dit des choses essentielles. Déjà, cette relation de violence, vous l'avez déjà vue, vous l'avez connue petite. Cette peur au ventre de l'autre. On ne sait pas quelles vont être ses réactions. Le fait de marcher sur des œufs en se disant à tout moment, il peut y avoir de la violence. Vous l'avez vécu petite, ça ?
Oui, c'est vrai.
Donc, vous rejouez quelque chose. Et puis, ce que vous dites aussi, c'est que vous avez été très seule, finalement, dans votre enfance, parce que votre mère travaillait, votre père était parti. Et le fait de tomber sur un homme qui soit très jaloux, maladivement jaloux, a fait que vous êtes sentie aussi moins seule. Dans le versant de la jalousie, on voit souvent que le côté, entre guillemets, pathologique. Il est là, ce côté pathologique, qui le rend violent. Mais pour la personne qui l'a subi, cette jalousie, il y a aussi le fait de se dire, il m'aime tellement, il est tellement là, tellement présent, il veut que je sois tout le temps avec lui. Et ça, ça vient vous rassurer parce que vous avez connu beaucoup de solitude.
C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai, en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir recherché ça, en fait. J'ai pas l'impression de... Comme dit, j'ai toujours... j'ai eu une première relation, quand j'ai 18 ans, avec un homme qui s'est moqué de moi et qui m'a trompée, etc. Et ensuite, je me suis toujours dit, je vais me diriger vers des relations qui sont simples, avec des hommes simples. Quand je dis simple, c'est... pas jaloux, desquels je ne serais pas jalouse non plus, quelque chose de... Et du coup, il n'y a jamais eu de réelle passion.
Ah
voilà.
Oui, parce que vous ne vouliez pas vous mettre en danger.
Non.
En et danger, là, je veux dire, de sentiments.
Tout à fait. J'avais plus envie de souffrir. Et là, c'est la première fois que je me sens vraiment en danger.
Ouais. Parce que là, vous avez eu un attachement à cet homme pour les raisons que je viens de vous citer.
Oui.
Il est là, le nœud. Et c'est ça qui vous empêche de partir. Parce qu'au fond, votre mental, il sait que vous devez partir.
Il sait que je dois partir, mais il y a toujours un côté de moi-même qui me dit...
Mais c'est le cœur qui reste accroché.
Ouais, c'est le cœur et c'est en même temps le fait d'avoir un peu, pas pitié, mais... Si, j'ai un petit peu de la peine, en fait, j'ai l'impression de laisser cette personne sur le carreau, quoi.
Mais ça, c'est secondaire.
Ça, je peux pas.
Je pense, vraiment.
Oui.
Vous voyez ? C'est secondaire, ça. Je dis pas que vous n'avez pas de cœur. Je dis pas que vous n'avez pas d'empathie pour cette personne. Mais je pense pas que ce soit ça qui vous raccroche.
C'est plus effectivement le fait de... d'avoir peur d'être seule et de plus avoir cet attachement qui me rassurait jusqu'à présent. Tout à fait. Mais du coup, ça me semble être une montagne du fait de devoir le sortir de l'appartement. Les policiers qui étaient venus la dernière fois m'ont dit ce que je pouvais faire. Enfin, c'était assez horrible parce que finalement ils étaient très misogynes et c'était une situation un peu compliquée, mais bon, grosso modo, ils m'ont quand même un petit peu expliqué ce que je pouvais faire et que si je portais plainte, si je portais plainte étant donné que le bail était à mon nom, je pouvais le faire sortir de l'appartement et voilà, mais je trouve ça très dur. J'ai un ami aussi qui travaille dans une société de déménagement et qui m'a proposé de déménager toutes mes affaires un jour où il n'est pas là. C'est pareil, je trouve ça très cruel. J'aimerais pouvoir lui dire les choses, mais étant donné que j'ai toujours peur de sa réaction, ça me semble impossible.
Élodie, vous êtes à un carrefour dans votre vie. Vous avez bien fait de nous appeler ce soir. Parce que là, vous avez 34 ans. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez créer une famille. D'accord. Soit vous restez dans cette relation qui, de toute façon, va devenir de plus en plus violente. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Parce que ça ne s'arrête jamais. Et il y a beaucoup de SMS qui viennent en ce sens. Parce que c'est connu, et je l'ai vu moi-même dans ma pratique, ça ne s'arrête pas. Il y a eu une première violence physique, il y en aura d'autres.
En fait, ce soir-là, c'est assez confus dans ma tête parce que j'ai l'impression que mon cerveau essaye d'effacer des parties. Là, ça va faire 2 semaines et du coup, c'est de moins en moins clair dans mon esprit.
Vous vous demandez même, à la limite, si c'est pas vous qui l'avez provoqué ?
C'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Eh bien, vous voyez.
C'est classique.
Oui, c'est un grand classique, bien sûr.
Mais en fait, c'est... étant donné qu'il a... En fait, on va dire... il a l'habitude de casser des choses. Et je pense que c'est pour me faire peur, à la base. Alors bon, quand c'est des assiettes, un vase, c'est pas grave. Bon, c'était un vase de ma grand-mère, bon, c'est pas grave. Une guitare...
Mais si c'est grave, en fait, Élodie. En fait, vous commencez à trouver normal ce qui ne l'est pas. Et c'est toujours comme ça, avec le temps. Ouais. Et vous allez commencer à trouver normal d'avoir une boule au ventre en permanence. Ça ne l'est pas. Tout ce que vous racontez... et hors de la normalité, et ne va faire qu'empirer. Vous comprenez ?
Oui.
Alors, soit en aujourd'hui, fait, vous, je, franchement, j'insiste. Hein.
Oui.
Peut-être, je vous invite à écouter cette émission en replay aussi. C'est toujours bien de pouvoir s'entendre, de vous entendre, vous. Soit vous mettez fin à cette relation maintenant. Vous avez 34 ans, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez vous reconstruire. Vous allez vous laisser la possibilité de créer une famille. Soit vous continuez cette relation, ça va être mal en pis. C'est un homme qui ne partira pas. Parce qu'il a trouvé sa proie. Donc il ne partira pas. Et vous risquez même de tomber enceinte, de faire un enfant avec cet homme-là, et ça va être encore pire. Et vous allez élever un enfant dans la violence. Voilà.
Ce que je me dis.
Voilà les deux scénarios possibles. Et il n'y en a pas 36. Il n'y en a que 2. Et quand bien même il devrait se soigner, quand bien même il devrait aller mieux, ça sera sans vous. Vous n'êtes pas sa psy. Vous êtes censée être sa petite amie, sa femme, mais pas sa psy.
De toute façon, il est complètement réfractaire à toute aide extérieure. Même pour ses problèmes d'alcool, avant il fumait du cannabis, il a dû arrêter, donc il buvait 2 fois plus. Et il est complètement réfractaire, pour lui, il n'est pas alcoolique, il a juste un petit problème de gestion de l'alcool. Et les psys, surtout pas, parce que son ex faisait des études de psy, et donc voilà.
Mais, oui, ce ne serait pas ça, ce serait autre chose, vous savez.
Oui, c'est ce c'est exactement ça, en fait. C'est quelqu'un, finalement, qui se crée aussi beaucoup de freins et de problèmes dans la vie. C'est comme pour sa recherche d'emploi. Depuis qu'on se connaît, il n'a pas beaucoup travaillé. Et je l'ai beaucoup aidé, en fait, dans ses recherches d'emploi. Et à chaque fois, c'était toujours une autre excuse.
Donc, il ne travaille pas, il est addict, il est alcoolique et il est violent. Donc, c'est avec cet homme-là que vous voulez construire votre vie. C'est ça que vous venez de me dire.
Après, c'est sûr, je ne vais pas m'attarder sur les points qui étaient positifs. C'est sûr, hein, sinon je serais partie, je pense, il y a longtemps. Mais...
Bien sûr. Mais ça,
il y a très bons moments aussi.
Ah oui, il y a très bons moments, mais il y a aussi beaucoup de moments comme ça. Et aussi, ce qui rend, ce qui fausse la donne, c'est que quand il y a de la violence, il y a beaucoup de mauvais moments. Quand on vit des bons moments, on a l'impression qu'ils sont exceptionnels.
Ouais, c'est vrai.
Et oui, forcément.
Ouais.
Vous comprenez, si c'est la nuit la plupart du temps et que vous allumez une toute petite bougie, vous avez l'impression que c'est un soleil qui s'éclaire.
C'est très clair, ouais.
Donc à chaque fois, vous avez l'impression que c'est un soleil qui s'éclaire. C'est pas un soleil. C'est une flamme de briquet.
C'est vrai.
Parce qu'elle s'éteint aussi vite pour laisser place à nouveau à l'alcool, à nouveau à la violence.
J'ai cru en fait que ça pourrait changer.
Mais ça ne changera pas. J'aimerais vous lire quelques SMS qui sont arrivés pour vous, Élodie.
Ouais.
J'ai vécu la même chose. C'était mon mari que j'ai fini par quitter après 15 ans avec deux enfants. Je revis depuis, il faut fuir, il ne changera jamais. C'était le premier SMS. Le SMS qui suit. Le mien m'a dit qu'il fallait bien qu'il mette ses problèmes sur le dos de quelqu'un. Au bout de 49 ans, j'ai enfin ouvert les yeux. Et j'ai rompu. Fuyez si vous voulez vivre mieux. Le SMS qui suit. Bonsoir Sabrina, un homme ou une femme qui se permet de donner une claque à sa conjointe, son conjoint ne s'arrêtera jamais. Voilà. Et ce n'est qu'une suite de SMS comme cela, de personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui ne sont pas parties à temps. Enfin, qui ont fini par partir. Mais après des années.
Ouais. C'est ce que je me dis. Comme vous disiez avant, c'est un carrefour à 34 ans.
C'est-à-dire que là, tout est possible pour vous encore, vous voyez ? Vous le mettez dehors, cet homme a des problèmes à régler, il les réglera, il trouvera un endroit pour vivre, vous inquiétez pas. Vous le mettez dehors et vous vous reconstruisez. Ou alors,
je le fais au fond de moi. Hein.
Ouais. Ou alors, vous risquez d'appeler la Libre Antenne dans quelques temps, peut-être quelques années si on est encore là, pour raconter votre calvaire. Avec peut-être un enfant ou deux dans les bras, qui aussi vivront un enfer.
Ce qui est dur, c'est certainement encore pire après 15 ans de vie commune, ou 20 ans ou plus. Mais c'est de voir finalement un visage qui n'est pas du tout celui qu'on imaginait, quoi. Enfin, se dire qu'on s'est trompé à ce point sur une personne.
Mais c'est ce que vous êtes en train de faire.
Je suis assez perspicace sur les gens.
Mais c'est ce que vous êtes en train de faire pour différentes raisons qu'on a évoquées, je vous l'ai dit.
Ouais.
Au début, la jalousie, elle a quelque chose d'attrayant. Vous avez l'impression que c'est une manifestation d'amour incroyable. Au début.
Ouais.
Avant que ça devienne un enfermement.
En tout cas, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé autour de moi, mais je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. En fait, j'en ai jamais parlé jusqu'à cet épisode-là qui était trop violent pour que je puisse me taire, et puis j'ai pas pu aller au travail pendant un jour, donc
vous j'en ai frappé
un petit peu parlé.
Vous a frappé
Oui. Oui. c'était en fait, comme je vous disais, c'est assez confus dans mon esprit parce que moi-même, étant donné qu'il était en train de tout saccager dans l'appartement et que c'était pas la première fois et que donc j'avais très très peur, je l'ai pris en fait à la gorge mais sans serrer. Et ensuite, je crois que ça a été la porte ouverte à. Enfin, j'ai levé une espèce de barrière physique entre nous et puis c'est voilà, il m'a mis des gifles, j'étais par terre, il m'a tiré les cheveux, un coup de pied dans le ventre, des insultes, beaucoup d'insultes. Donc j'ai crié tellement fort que tous les voisins ont appelé la police. Et voilà, mais étant donné que c'est moi qui l'ai touché en premier, en fait...
Oui, bien sûr, c'est vous qui l'avez... Bien sûr, c'est de votre faute, c'est évident, Élodie. Hein? Et vous êtes une aguicheuse, certainement, aussi, c'est ça? Vous regardez trop les hommes?
Bah, ce soir-là, ouais, c'était...
c'est ça.
C'était parce que j'étais rentrée, parfois 5 minutes, parfois 10 minutes plus tard, du boulot. Et puis un soir, je suis rentrée, j'avais pris une douche. C'est vrai que c'est pas habituel, mais bon, c'était. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres.
Non, mais vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire. J'aimerais vraiment que vous écoutiez cette émission en replay, de vous entendre. Je suis rentrée, j'ai pris une douche. Et c'est ça qui a provoqué sa violence.
C'était une série de choses. Il a commencé avec ça, et puis. En fait, je l'ai emmené. C'était le jour de son anniversaire, donc j'ai offert son cadeau. On est allé au restaurant. Et puis, en fait, l'après-midi, on est allé faire des courses. Et il s'est acheté une bouteille de whisky. Et puis, quand on a mis les affaires sur le tapis de course, ben, j'ai pas voulu payer sa bouteille de whisky, en fait. Du coup, il l'a payé, il a rien dit. Et puis, en fait, le soir, c'est pareil, ça a dégénéré aussi par rapport à ça, du fait que j'avais acheté pour 100 euros de vêtements, ou, je sais pas, enfin, c'était pas vrai d'ailleurs, mais bon, voilà. Et que j'avais pas. C'était le jour de son anniversaire et je lui avais pas payé sa bouteille de whisky, quoi. Voilà. J'étais une personne égoïste, je pensais qu'à moi. Voilà, et puis que j'allais coucher à droite, à gauche. Puis c'est monté en épingle, et puis voilà. Donc. Alors je me suis aussi dit, effectivement, est-ce que s'il règle son problème d'alcool.
Non, mais Elodie, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Encore une fois, s'il doit régler ses problèmes d'alcool et autres, ça ne va pas être avec vous et dans cette situation. Là, pour l'instant, excusez-moi, mais il est chez vous, il ne travaille pas, il boit. Il est dans un déni total concernant sa situation, concernant son alcoolisme et concernant sa violence. Comment voulez-vous que ça s'arrange ?
Je pense pas que ça puisse s'arranger. Enfin, disons, entre-temps, il s'est rendu compte, mais alors c'est pareil. Il avait un travail là, depuis un mois. Et il y a eu effectivement cette dispute. Du coup, ensuite, on faisait chambre à part. Hein. Là, ça fait 2 semaines qu'on fait chambre à part. Et un matin, du coup, je suis montée et en fait, il était encore couché. Mais en fait, il devait être au travail, donc il a décidé de ne plus aller travailler, en fait. Parce que il a soi-disant plus la force, plus l'énergie, qu'il est déprimé. Donc.
Puis vous courez, vous. Hein, vous courez.
Ben là, disons que je me suis énervée. Enfin, je trouve ça. Effectivement un peu gros, quoi. L'ayant déjà accompagné dans ses épisodes de chômage, qui était, enfin voilà, en plus c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement aussi, et il est dans sa lutte, hein, il est dans son monde, parfois, voilà. C'est intelligent, mais je veux dire, il est dans un monde voilà, où il cultive sa colère, sa haine. Et ouais, il se place toujours en victime, effectivement, par rapport à ça, par rapport au fait que le travail, c'est dur, le travail, ça paye pas, on prend pour un larbin, on prend pour... enfin, voilà. Et effectivement, je l'ai accompagné déjà deux fois dans son chômage. Enfin, voilà, c'était assez éprouvant pour moi aussi. Et là, le fait qu'il ait décidé de son propre chef de ne plus aller travailler, c'est vrai que ça m'a fait un choc.
C'est-à-dire qu'en fait, des chocs, vous en avez eu successivement, si vous voulez.
Oui.
Vous voyez ? Mm. Mais tant que vous ne les considérez pas dans toute leur gravité, vous pourriez en avoir des centaines, des chocs. C'est comme si vous ne voyiez pas la réalité. Alors, il y a un SMS qui est arrivé et qui est très juste et qui dit quel bénéfice vous trouvez dans le fait de vivre cette situation. Parce qu'en effet, ce SMS dit aussi ces jeux-là se jouent à deux, c'est vrai.
J'ai pas cette impression, non, mais je pense que malheureusement, je me suis... un petit peu laissé absorber par la relation et je me suis trop laissé faire et voilà, ce qui est pas du tout dans mon caractère. Hein. Je sais pas, je me suis laissé happer par la peur, je pense. Et le bénéfice que j'en... Enfin voilà, c'est sûr que avec... On a beaucoup de passions en commun. Donc voilà, j'ai jamais connu ça avec personne aussi, donc c'était... assez intense et voilà, ça marche un moment mais là il y a pas d'équilibre en fait. Enfin, il y a plus d'équilibre, c'est sûr.
Bon, vous savez Élodie, dans quelques jours là c'est la nouvelle année,
hein? Oui,
donc c'est le moment des bonnes résolutions. Et je pense que vous en avez une à prendre, j'espère que vous allez la prendre vraiment. Vraiment.
Je pense que je suis sur la bonne voie.
Mais n'attendez pas trop parce que vous allez perdre de la force.
Oui, c'est vrai. Oui.
Vous voyez ?
C'est sûr.
Donc, il n'y a pas 30 solutions. Vous déménagez ces affaires, vous fermez la porte et c'est terminé.
Oui.
Et je vous conseille d'aller consulter.
J'ai un rendez-vous au CMP à côté de chez moi.
Super.
Donc, il faut juste que je trouve... j'ai dû décaler le rendez-vous, mais... parce que je suis dans le commerce, et puis là, avec les soldes, Noël, les soldes, et tout ça, c'est très très compliqué, mais...
Non, mais il faut y aller. Vous avez des choses à régler.
C'est prévu, oui.
Vous avez des choses à régler pour ne plus vivre ce type de situation. Et comme je vous l'ai dit, le nœud est dans votre enfance. Il va falloir le défaire.
Je vous remercie en tout cas.
J'espère vraiment, vraiment, sincèrement, Élodie, que vous allez prendre la bonne décision pour vous. Vous avez une belle vie à vivre. Vous avez appelé ce soir parce que vous hésitiez, vous êtes dans une période d'hésitation et j'espère vraiment que vous allez prendre le bon chemin pour vous. Un chemin où il n'y aura pas de violence. La vie à deux, l'amour, c'est pas ça. La violence, c'est pas de l'amour. La jalousie maladive, c'est pas de l'amour.
Oui, vous avez raison.
Tout ça, c'est pas de l'amour. Le véritable amour, il a pas besoin de ça. Loin de là. C'est même tout le contraire. C'est faire attention à l'autre. C'est le soutenir. C'est vivre à deux. C'est travailler aussi à deux. C'est fonder une famille. Peut-être, puisque vous avez l'âge pour ça. Mais en aucun cas, c'est taper sur l'autre, c'est lui faire des reproches en permanence, c'est instaurer un climat de terreur. C'est se servir d'une situation, parce que, excusez-moi, mais cet homme se sert de vous. Il vit clairement chez vous, il n'a pas de revenus. Il vous demande en plus d'acheter son alcool. Franchement, pourquoi voulez-vous qu'il parte ? Attendez, l'hôtel, le château est trop beau.
Ouais. Après, il a jamais, c'est vrai que, enfin, il a jamais vécu à mon crochet financièrement. Enfin, il a toujours payé sa part, mais enfin, ça n'enlève rien à ce que vous dites.
Oui, et surtout avec l'alcool qui ne va faire qu'augmenter, à un moment, il la paiera plus sa part parce qu'il n'aura plus de revenus du tout.
Oui, mais ça c'est sûr.
Ah bah oui. Eh ben oui.
Le problème, c'est qu'il a toujours préféré s'acheter. Enfin, il fume. Donc, le tabac, ça coûte cher. L'alcool, ça coûte cher. À l'époque, quand il fumait du cannabis, bah voilà. En fait, finalement, tous ses revenus, quasiment, voilà, il payait la moitié du loyer et le reste passait là-dedans, quoi. Et quitte à avoir. Enfin, ne même plus avoir une paire de chaussures correctes. Pour effectivement aller chercher du travail, quoi. Enfin, c'est...
Réécoutez cette émission et tout ce que vous avez dit ce soir, Elodie. D'accord ?
Oui.
Faites-le. Faites-le. Quand vous allez vous entendre, d'accord. Je pense que vous allez avoir un choc. Vous nous tiendrez au courant ?
D'accord.
D'accord ?
D'accord.
Je vous souhaite énormément de courage. Et sortez de là. La vie est belle, la vie est ailleurs. Sortez de là. D'accord ?
Je vous remercie en tout cas.
Merci à vous pour votre appel. Je vous souhaite de belles fêtes et beaucoup de courage à vous pour la suite.
Merci, à vous aussi.
Au revoir, Elodie.
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous attendons vos appels au 39-21 et puis bien sûr vos réactions par SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Et c'est Stéphanie qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Sabrina, vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien.
Ah super, je suis ravie de vous parler.
Écoutez, je suis ravie que vous soyez là aussi.
Voilà, donc j'ai un petit souci qui peut sembler trivial par rapport à l'auditrice précédente. Mais en fait, j'ai décidé de l'affronter parce que ça me gâche un peu la vie en fait. Il se trouve que quand je suis en vacances, j'appréhende la rentrée jusqu'à 3-4 jours avant quoi. C'est-à-dire que je commence à y penser, je commence à être mélancolique, triste, j'arrive plus à être trop dans l'instant présent. Je pense à la rentrée, à retourner au travail. Et je comprends pas pourquoi ça me fait ça, parce que j'ai un bon travail, une bonne atmosphère, j'aime mon travail. Je travaille dans des très bonnes conditions, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais je ne peux pas m'empêcher jusqu'à 4 jours avant la reprise d'y être presque déjà, en fait. De plus apprécier l'instant présent, mais de penser à la reprise.
Autant qu'il vous reste.
Autant qu'il me reste, ouais. Jusqu'à, dans une semaine, je serai en train de faire ça au travail, ça sera déjà fini, voilà.
D'accord.
Et c'est pénible.
Ça a toujours été comme ça, Stéphanie ?
Il me semble, jusqu'à là je parle des vacances, mais ça me le fait même le dimanche, vers les 15-16 heures, je pense déjà au lundi matin.
Mmh. Alors le blues du dimanche soir, il y a beaucoup de personnes qui l'ont,
oui.
Vous savez ça.
Oui.
Ça c'est très fréquent. Non mais c'est vrai,
ouais.
C'est vrai, c'est très connu. Hein, le dimanche soir c'est un moment compliqué en fait,
ouais.
De reprise.
Mm-mm.
Et souvent d'ailleurs le lundi est aussi compliqué, puis le mardi ça va un peu mieux.
Un mardi, ça va, ouais.
Voilà.
Je déteste les lundis, je suis de mauvaise humeur, agressive, voire envers les collègues. Je déteste les lundis, ouais. Bon.
Donc, ce que vous vivez là, c'est normal. Je dirais que ça arrive à une majorité de personnes.
Mm-hmm.
Maintenant, pour les vacances, c'est un peu autre chose. Parce que si ça commence à vous gâcher la vie, et
ouais.
Justement ces temps où vous devriez être détendu bien avant la reprise...
Voilà, ouais. Là, ça m'a fait le coup là, pour les vacances de Noël. Jusqu'à 4 jours avant, ça a commencé hier et je reprends mercredi prochain.
Ah oui, vous êtes très en avance.
Je commence déjà à compter, voilà, 4 nuits, 4 jours. Dans une semaine, j'y serai. Ah ouais.
Je peux me permettre de vous demander votre âge, Stéphanie ?
Oui, j'ai 45 ans.
45 ans. Et ça, ça a toujours été comme ça, vous pensez ?
Je pense, oui. Enfin, bon, personne n'est jamais très content de finir les vacances.
Bien sûr.
Mais là, ouais, là, ça, ça m'ennuie fortement quand même, parce que c'est dommage, comme vous dites, il y a quand même 4 jours et je suis déjà dedans, quoi.
C'était comment quand vous étiez enfant, l'école, tout ça, les vacances ?
Oh, bah, bien. Je veux dire, j'ai toujours été très studieuse, très bonne élève. Donc, à l'école, j'étais très, très appliquée, toujours première de la classe, les bonnes notes, tout ça. Je faisais mes devoirs, donc... Oui, bah, j'étais anxieuse et un peu stressée à l'idée d'être toujours la parfaite, je dirais, élève.
D'accord. Donc, les vacances, pour vous, c'était un moment, justement, où vous pouviez vous relâcher ?
Oui, tout à fait, oui.
Oui.
Oui. J'allais à l'école parce que je devais aller à l'école, pas parce que j'adorais l'école. Hein. C'était pas ça. Mais une fois que j'y étais, bon, bah, je devais bien être appliquée, ouais.
Et est-ce que c'est pas ça que vous rejoueriez, par hasard ?
Peut-être, mais...
Parce que tout à l'heure, vous avez une petite phrase, un peu comme une enfant. Vous avez dit « je compte les nuits ». Vous savez comment on dit à un enfant « je compte les dodos hein, ». Plus que 3 dodos, plus que 2 dodos.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Vous voyez, c'était un peu une phrase d'enfant, ça.
Mm-hmm. Ouais. C'est vrai que quand je pars quelque part, même en vacances ou quoi, je compte en nuits, ouais.
Oui, ben, c'est les enfants qui font ça. Vous savez, on leur dit ça.
Ouais.
On leur dit ça. Mm-hmm. Plus que 3 dodos, plus que 2 dodos.
Oui, mais pas avant de retourner à l'école.
Bah si, parfois c'est ça. Parfois c'est ça.
Ouais.
Parce que si vous avez eu justement une scolarité où vous étiez très studieuse, vous imposiez sans doute aussi d'être très appliquée, d'être la première de la classe, de ne pas perdre votre rang. Donc ça devait générer de l'angoisse, ça devait générer du stress.
Oh oui, tout à fait, oui.
Donc les vacances, c'était des pauses pour vous. Des moments où vous pouviez être vous-même, finalement.
Oui.
Et sans doute que cette reprise, elle n'était pas si simple. Il fallait à nouveau endosser le costume de la première de la classe. Ça vous parle, ça, Stéphanie ?
Oui, je pense, oui, tout à fait, ouais. Oui, parce que je travaillais beaucoup, j'étais première de la classe, mais pas facilement. J'ai beaucoup de travail derrière. J'ai fait de longues études, mais j'ai toujours beaucoup travaillé.
Donc c'est sans doute ça.
Mais là, je me dis quand même... Pardon ?
C'est sans doute ça, je pense. Vous voyez ? Comme quelque chose de l'enfance que vous rejouez. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu, puisque vous avez un travail où vous n'êtes... Bon, on est toujours challengé dans son travail, mais ce n'est plus la même chose. On ne vous demande pas d'être la première de la classe dans votre travail.
Non. Est-ce que alors comment justement dépasser ça, en fait, arriver à ne plus avoir ce stress en avance et jusqu'à gâcher les derniers jours de vacances ?
Alors, il y a quelques techniques que vous allez pouvoir utiliser, que je vais vous donner, pour pouvoir justement vous détacher de la petite fille. C'est la petite fille là qui parle en vous.
D'accord.
Hein ? Mais j'aimerais déjà que vous preniez que ça prenne sens pour vous dans un premier temps.
Oui.
Vous voyez ? Que vous puissiez bien vous remettre dans cette position d'enfant.
Oui.
Est-ce que ça vous semble juste ? Est-ce que vous pensez que là, vous vous voyez en tant qu'enfant dans ces moments-là de stress que vous vivez ?
Oui, je pense quand même, oui, parce que le dimanche, c'était toujours un peu difficile, oui.
Ce retour à l'école ?
Ouais.
Oui. Vous passiez de bons week-ends avec vos parents ?
Oui, très bien, oui.
C'était agréable ? Bon, alors ce que je vous propose, Stéphanie, parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer cette information pour qu'on aille un petit peu plus loin. D'accord. Ça va être le flash info dans quelques instants.
Je reste en ligne.
Donc, vous restez en ligne avec nous. Ça va vous laisser le temps de digérer cette information, de vous remémorer aussi, vous, en tant que petite fille. D'accord. Et on va se retrouver juste après le flash info pour que je puisse un peu vous guider, pour que cette angoisse, elle s'en aille.
Super.
En tout cas, vous donner quelques exercices pour qu'elle s'en aille.
Très bien.
Ça vous va comme ça ?
Oui, merci beaucoup, oui.
Hein ? Donc, vous restez bien avec nous, Stéphanie, et puis essayez de penser à ce qu'on vient de dire, surtout.
D'accord,
de bien vous remettre dans cet état de petite fille qui retourne à l'école et qui réendosse son rôle de première de la classe. D'accord ?
Ok.
À tout de suite.
Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1.
Ensemble jusqu'à 1h du matin, nous attendons vos appels au 3921 et puis bien sûr vos réactions par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. Et juste avant ce flash info, nous étions avec Stéphanie. Vous êtes toujours avec nous, Stéphanie ?
Je suis toujours là, mais non. J'ai l'impression que la batterie de mon téléphone va me faire défaut.
Ah, alors ça c'est un problème.
Oui, oui, en effet, oui.
Vous ne pouvez pas vous brancher quelque part ?
Non, c'est sans fil.
Ah, c'est sans fil. En tout cas, vous étiez. Il vous reste combien de temps ? Je peux parler quelques minutes encore, vous pensez ? Ou vous allez nous quitter tout de suite ?
On va essayer, mais si ça coupe, ça coupe. Oups.
Bon. Vous nous expliquiez en tout cas que vous aviez une appréhension concernant la fin des vacances.
Mm-hmm.
Hein ? Et je disais juste avant le flash info que vous rejouiez quelque chose de votre enfance, de la petite fille que vous étiez.
Oui.
Selon vous, elle a quel âge cette petite fille ? Si vous deviez vous imaginer, vous voyez à quel âge ?
Oh, je dirais 14-15 ans.
Ah, c'est plus une petite fille, 14-15 ans. C'était là, ouais. Où c'était là où il y avait le plus de pression ? Vous étiez...
Je pense, oui. Oui.
C'était
oui,
le lycée, 14-15 ans, c'est la seconde ?
Oui.
Quand on commence les orientations ?
Ouais.
Oui. D'accord. Alors, il faut que vous imaginiez, vous vous imaginez à 14-15 ans. D'accord. Et quand vous sentez de l'appréhension, de l'angoisse qui monte, alors qu'aujourd'hui vous avez 45 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc il y a 30 ans de cela. Quand même. Vous pouvez parler à cette petite fille que vous étiez.
Oui.
Et lui dire que vous n'allez pas retourner à l'école. Vous parlez à vous-même, en fait. Vous lui parlez à cette petite fille.
D'accord.
Parce que cette angoisse-là, elle appartient au passé.
Oui.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
Il faut essayer de vous visualiser à l'âge que vous aviez, 14-15 ans. Comment vous étiez à cet âge-là ? Vous arrivez à vous voir ?
Oui.
Oui. Eh bien, c'est à cette jeune fille, on va dire, plutôt que petite fille, qu'il faut parler. Quand vous sentez l'angoisse qui monte, vous parlez à vous-même. Non. Là, tu ne vas pas retourner au lycée, c'est fini, c'est derrière toi. Va retourner dans un travail. Maintenant, c'est l'adulte qui est là. Vous parlez comme un parent bienveillant.
D'accord.
Est-ce que vous comprenez l'exercice ? Vous parlez comme un parent.
Hein,
je ne sais pas si vous avez des enfants.
Non.
Mais comme vos parents vous parlaient.
D'accord.
S'ils étaient bienveillants, je le souhaite pour vous.
Oui.
Comme une mère qui parle, qui vous parlait peut-être pour vous rassurer. Votre mère vous rassurait ?
Oui, en fait, mes parents ne me mettaient pas du tout la pression, je me la mettais toute seule. Je me mettais beaucoup de pression sur moi toute seule. Mes parents me laissaient, me faisaient confiance. Ils n'ont jamais eu à demander si j'avais fait mes devoirs, mais je me mettais la pression toute seule, en fait.
D'accord. Donc, comme si votre mère, en fait, était au courant de votre angoisse et qu'elle venait vous rassurer.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'il faut vous parler en vous imaginant à cet âge-là, en vous visualisant à cet âge-là.
D'accord.
Essayez de faire cet exercice.
Mm-hmm.
Ça devrait pouvoir vous aider si vous le faites vraiment en conscience, c'est-à-dire vous poser tranquillement, vous parler à l'intérieur de vous.
Mm-hmm.
Parce que c'est une petite angoisse qui date de là, en fait. Et vous n'êtes plus une adolescente qui va au lycée.
Non.
Pour essayer d'avoir la meilleure orientation possible et le meilleur bulletin possible. C'est terminé, ça.
Okay.
D'accord, Stéphanie ? Vous essayerez et puis n'hésitez pas à me tenir au courant.
D'accord.
D'accord ?
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une belle soirée. On se quitte là avant que votre téléphone nous lâche.
Voilà.
Je n'aimerais pas me retrouver dans le vide. Je préfère vous dire au revoir tout de suite.
Voilà, merci beaucoup.
Merci pour votre appel, Stéphanie.
Je vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
parler à Sabrina Philippe,
appelez le 3921, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Vous êtes sur Europe 1, c'est la Libre Antenne, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et c'est Isabelle qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Sabrina, comment allez-vous? Merci de prendre mon témoignage.
Mais merci d'être avec nous ce soir.
Je vous en prie. Oui, je vous appelle parce que j'ai 68 ans d'abord. J'ai une vie avant. J'ai des 4 enfants, des petits-enfants. Mmh. Et donc, j'ai une relation avec un homme qui a 15 ans de moins que moi, qui a toujours été célibataire, ce qu'on appelait autrefois un vieux garçon, qui en a en tout cas les manies. Chacun vit de son côté, je vis chez moi, je suis indépendante, je travaille. Et lui vit chez sa maman.
D'accord.
Chez sa maman. Et voilà. Donc, c'est un garçon qui vit chez sa maman et chez sa sœur.
Enfin, un grand garçon, hein, parce que même s'il a 15 ans de moins que vous, il a quel âge donc,
il a
du coup
53 ans.
Voilà.
53 ans,
bon,
oui.
C'est un grand garçon quand même.
Oh, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord, mais je n'ai pas envie déjà de me faire le tableau. Alors, j'ai la même boule au ventre qu'Élodie. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas eu de violence physique parce que je ne tolérerai pas. J'ai avec des frères, je ne tolérerai pas. Il y a une violence psychologique, une certaine forme de perversité. Je vais m'expliquer. J'ai servi de. Comment dirais-je? On a depuis 8 ans, on fait comme si on était un vrai couple. Il n'a jamais été mon amant, il n'a jamais pu être mon amant. Jamais. Pu. À tel point que je lui ai demandé, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je lui ai demandé, il m'a dit, j'ai un problème avec ma mère. Donc moi, je suis dardard consultée, parce que je voulais voir avec une thérapeute en quoi ça pouvait consister, et savoir si ça venait pas de moi, de mon âge. Il m'a dit un jour, tu es une femme d'expérience. Et je pensais que c'était négatif. Je l'ai reçu comme quelque chose de négatif, vu la manière dont c'était dit. Ça n'était pas dans sa tête, on s'en est expliqué après. Mais une femme d'expérience, comme je n'ai pas été très fidèle lors de mon mariage, pour moi, c'était négatif. C'était, en gros termes très grossiers, ça veut dire que tu es un peu pute sur les bords. Voilà. Mmh. Donc, est-ce que ça le rebutait? J'en sais rien. Et voilà, toujours est-il que malgré tout, comme j'ai une belle image, que je fais nettement moins mon âge, eh bien, il était content de se montrer à mon bras, dans sa famille, de montrer à tout le monde, à famille et amis, qu'il avait une vie normale, entre guillemets, comme les autres, qu'il était accompagné comme les autres.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaisait dans cette relation où il n'y avait pas d'amour charnel, si je comprends bien?
Oui, moi j'étais amoureuse, puis je pensais que ça allait venir petit à petit, que voulez-vous? Et voilà, c'était ça mon truc. Et puis, si j'étais très, très, très honnête, j'ai été au bout de quelques années quand même, je me suis dit que c'est parce que j'avais peur de la solitude, parce que moralement, il était loyal, parce qu'il était gentil. Mais voilà, le côté amoureux s'en est allé, d'autant plus qu'est venu se brancher un côté, le thérapeute m'a dit, incestuel de la part de la mère qui est veuve et qui a pris ses deux enfants en otage, la fille de 55 ans et le fils donc de 53 ans. Et comment dirais-je, relation toxique, elle les oblige à, sur un coup sous un vernis très très sympathique, elle les oblige à faire ce qu'elle veut en fait. Hein. C'est une grosse feignasse et elle les oblige à faire ce qu'elle veut. Alors la sœur un jour m'a dit, si Philippe doit se marier, c'est pas une femme qui, c'est pas la femme, c'est pas un homme qu'elle épousera, c'est toute la famille, c'est-à-dire la mère et la fille. J'ai dit, ben, j'espère que le jour où il se mariera, il partira de chez lui, il partira d'ici parce qu'il doit créer son propre foyer. Et donc les choses se passent pas comme ça du tout. Il n'a pas été question une seconde que je me remarie. Je pensais pas à moi. Mais à partir de ce moment-là, la fille est devenue une vraie teigne, une vraie méchante, une vraie cruelle vis-à-vis de moi. C'est une personne qui a plus que de l'embonpoint, puisqu'elle s'est fait opérer, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cette intervention qui doit faire maigrir énormément il y a 3 ans.
Elle s'est fait poser un anneau gastrique, elle a fait une réduction.
Non, une réduction, c'est ça, voilà. Pas d'anneau gastrique, ça ne se fait plus, je ne pense pas. Et comment dirais-je, être suivie surtout par un psychiatre ou un thérapeute quelconque. Enfin bon, en tout cas, c'était moi le côté thérapie qui m'intéressait beaucoup pour cette famille-là et pour elle. Et parce que quand elle a perdu son papa, elle a 23 ans, et quand vous l'entendez dire, il y a quelques semaines encore, mon père, c'était l'homme de ma vie, je ne pourrais jamais faire mon deuil, etc., etc., c'est quand même assez navrant, assez pathétique. Et puis, elle prend son frère, quand on est ensemble, quand on sort ensemble, tous les trois, très rarement, parce que j'ai mis au lait là-dessus, eh bien, Elle présente son frère. Ah, je vous présente un tel, ce voilà. Et moi, rien à côté. Le frère ne moufte pas. Et là, je râle. Je dis, tu me présentes. Et quand il y a une situation aussitôt après, la même situation, moi, je dis, je suis la compagne d'un tel. Donc, ça remet les choses à leur place. Mais ce n'est pas à moi de le faire. D'abord, ce n'est pas à lui de le faire. Donc, je voyais des petites choses comme ça. On finit par m'agacer. J'allais chez eux, la boule au ventre. Je prenais un quart de Lexomil avant d'y aller. Donc, je lui ai dit, écoute, maintenant, si tu veux me voir, je n'irai plus chez toi, mais c'est toi qui viendras chez moi, c'est ce qui se passe. Et la boule au ventre est toujours là. La boule au ventre est toujours là parce que sa sœur lui a dit, je ne veux plus qu'elle mette les pieds chez moi, chez nous, dans la maison familiale. Je ne veux plus la voir. Donc, si vous voulez, ça me remet en situation de deuxième. Cette situation de deuxième, je l'ai vécue toute ma vie. J'irais même presque in utero. Parce que maman a été, c'est pas mon histoire, mais n'empêche que je l'ai subie. Maman attendait un garçon, devait désespérément avoir un garçon, et elle a une fille. Elle m'a confié à quelqu'un d'autre, j'étais toujours dans le milieu familial, et elle m'a confié à quelqu'un d'autre pour concevoir d'autres des garçons à la queue leu-leu après. Donc si vous voulez, cette place de seconde, j'ai toujours eu. Je me suis enfermée dans une bulle, j'avais une vie très onirique qui me permettait d'être pas malheureuse en fait. Et puis c'est tout. Puis j'existais pas beaucoup dans cette famille. Ou alors j'existais, mais c'était la franche rigolade, j'étais pas prise très très au sérieux. Et c'est pour ça que j'établis un parallèle avec mon compagnon, futur ex-compagnon, parce que lui n'existait pas non plus. Et c'est un homme qui est très cultivé, qui s'est, en fait, il était très solitaire, très très seul chez lui. Il n'existe pas au niveau des femmes. Eh bien, il a écrit des livres. Il écrit des livres d'histoire sur la guerre 39-45. Les voilà. Et je l'ai aidé. Je l'ai aidé à corriger son manuscrit. Et ça faisait 1900 pages. Nous avons, c'est notre enfant, si vous voulez. Nous avons créé ce livre tous les deux. Lui a fait le fond parce que le côté historique, je ne le connais pas. Et je l'ai aidé sur la forme, ce qui lui a permis d'être édité. Et voilà, donc si vous voulez, je vais le quitter, je ne peux pas. Il est venu passer les fêtes de Noël chez moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans son attitude. Parce que on ne parlait pas du 31, d'habitude le 31, dès qu'il y a quelqu'un chez lui qui ne plaît pas, il vient chez moi. Et là, on n'a pas abordé ce 31-là. Et je pressentais qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, il a passé un deal avec sa sœur. Et il lui dit, je vais passer le Noël chez Isabelle, mais elle lui dit, je ne veux pas l'avoir chez moi le 31. Et voilà. Donc, je suis passée encore au second plan. Et c'est la fois de trop. C'est la fois de trop, comprenez-vous. Et je suis très lucide là-dessus, mais ça n'enlève pas la fameuse boule dont Élodie parlait tout à l'heure, la boule au ventre, le chagrin, la colère contre moi de m'être encore trompée, d'avoir subi, si vous voulez, j'ai toujours été consciente que j'étais un petit peu l'accompagnatrice, j'usurpais une identité qui voulait bien le donner. J'ai manqué peut-être de confiance en maman aussi, extérieurement ça ne se voit pas du tout. Et intérieurement, effectivement, j'ai toujours été la petite fille qu'on a mise de côté, qu'on n'a pas pris au sérieux.
Vous avez rejoué quelque chose avec cet homme. Néanmoins, alors, parce que ce qui est étonnant dans votre histoire, Isabelle, quand même, c'est que c'est une relation qui a duré 8 ans, c'est ça?
Oui.
8 ans. 8 ans sans relation sexuelle, sans lien.
Absolument.
Charnel.
Bah, j'ai tenté le coup, mais non, lui ne pouvait pas. Il y a un problème d'alcool là aussi.
D'accord.
Là aussi,
donc c'était finalement une, comment on pourrait dire, une amitié amoureuse. Quand il n'y a pas de lien charnel.
Bah, il avait même pas les, comment dirais-je, le, c'est moi qui le maternais presque dans les câlins, parce qu'il ne sait pas faire de câlins. Mmh. Il ne sait pas, il n'en a jamais reçu, il ne sait pas. Donc si vous voulez, j'ai rempli un rôle à mon insu, puis après j'ai été très consciente. J'ai rempli le rôle maternant.
Parce que sans doute, c'est le seul lien qu'il puisse avoir. C'est le lien qu'il a avec sa mère et qu'il a eu avec vous. Il est incapable d'être...
Il n'a aucun lien maternel avec sa mère.
D'accord.
Aucun. D'accord. La mère n'a aucun lien maternel avec son fils. Mmh. Elle a trouillé de sa fille. Non, c'est rien. C'est terrible. C'est terrible, cette famille-là. C'est une famille toxique pour moi. Toxique complètement. Et voilà, il faut que je sorte de cette atmosphère-là. Donc, j'ai dit que c'était fini. Mmh. Voilà. Voilà, si vous voulez, j'aimerais quand même... je ne sais pas si je dois trouver quelqu'un qui fasse de l'hypnose pour enlever cette espèce de côté répétitif de trouver des personnes qui, comment dirais-je, je choisis des personnes que mon allant, que ma prestance, que ma détermination, que mon courage, j'ose dire tous ces mots-là en toute humilité, il n'y a aucune arrogance dans mon truc. J'ai 68 ans, je le répète. J'ai une retraite de 800 euros et je travaille énormément, bien plus que la moyenne. Et ça me donne le droit de dire que j'ai beaucoup de courage. Et si vous voulez, cette réussite en fait pâlir quelques-unes. Mmh. Et ça, parce qu'en face de moi, j'ai des personnes qui sont très paresseuses, très, très paresseuses dans cette famille. Elles travaillent 3 jours par semaine, après c'est rien. Pas de vie sociale, pas de vie intellectuelle.
Mais ça, c'est leur vie, Isabelle. Vous voyez, parce que vous parlez beaucoup d'eux. Non, mais d'accord, mais vous parlez beaucoup d'eux. Oui. Mais ce qui compte, c'est vous. C'est recentré sur vous. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous n'avez pas dans cette relation aujourd'hui? C'est alors, ça. Parce que vous êtes quand même resté 8 ans dans cette relation. Donc ça veut dire que quelque part, en effet, vous avez rejoué quelque chose du passé. Ça vous a correspondu, même si c'était une mauvaise correspondance, je dirais, mais ça vous a quand même correspondu suffisamment pour rester 8 ans dans cette relation. Vous voyez, on ne peut pas l'enlever, ça.
Ben, je n'ai pas l'intention de la pourrir, parce qu'elle m'a apporté beaucoup intellectuellement, d'une part. Mmh. Moi, je sais que le fait d'aimer quelqu'un est un moteur dans la vie de tous les gens, même si j'aime mal, même s'il y a une part de masochisme de ma part, parce que je sais que ce n'est pas, c'est pas réciproque. Ça a tenu bon an mal an. À plusieurs reprises, j'ai voulu le quitter et j'avais peur qu'il revienne à son côté transparent dans sa famille, à son côté. Il vit dans la cave. Il s'est aménagé un appartement dans la cave de la maison, vous rendez compte. Et j'avais pitié. Mais la pitié, maintenant, elle n'existe plus. C'est un sentiment négatif. Elle n'existe plus, la pitié. Je suis au-delà de la pitié. Maintenant, comme vous dites, à juste titre, je sauve ma peau. Qu'est-ce que j'attends de cette relation? J'attends plus rien. Moi, j'ai envie d'avoir... Mais ce qui va me manquer, parce que vous savez, je bosse tellement que lorsque je rentre dans mon appartement, je récupère en me reposant, en dormant. Je ne suis pas allée en vacances depuis 20 ans. Je ne sais pas ce que sont des vacances. Je récupère simplement. Et... Comment dirais-je? Et j'étais contente d'avoir cette pseudo-affection. Mmh. Voilà. Mais maintenant... elle me fait souffrir parce qu'elle n'est pas dans mes attentes. J'ai besoin, je me méprise, de ce manque de respect que je me donne. Je ne me respecte pas en recevant ces miettes d'affection. Et là, j'en ai une grande conscience, une très grande conscience.
Donc, vous êtes prête à le quitter, tout simplement?
C'est fait.
Voilà. Vous êtes arrivée au bout de cette histoire?
Je suis arrivée au bout, effectivement. Alors, ce qui me fait peur, c'est la solitude, l'isolement, parce que en travaillant, mais je ne me suis pas fait de vie sociale. Les amis, après le divorce, il n'y en a plus. Surtout quand vous êtes une femme agréable à regarder, on ne reçoit pas une femme seule. C'est une rivale potentielle, même si je suis quelqu'un de très loyal, même si je suis devenue quelqu'un de très loyal. Si on ne tire pas les leçons de ces divorces, c'est pas la peine de continuer. Là, j'ai tiré les leçons. Mais c'est tout. Je ne suis reçue nulle part. Je n'ai aucune vie sociale en dehors de celle de mon travail.
Voilà. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire. Vous recréer une vie sociale?
Comment?
Alors par le biais... Parce que cette relation, elle vous prenait du temps. Là, vous le disiez, du temps pour justement mettre en forme ce livre, du temps pour se voir, du temps pour échanger. Ce temps-là, oui. Vous pouvez en faire autre chose.
Oui, mais comment?
Vous pouvez faire des activités qui vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes, des choses qui vous plaisent. Apparemment, vous aimez voilà, un peu ce qui est intellectuel pour vous intéresser à l'histoire.
Oui, moi, ce qui m'intéressait énormément, c'était la, comment dirais-je, la correction des manuscrits, en fait. Voilà, cette faculté d'écriture, j'adore ça, et puis je suis assez douée. Donc, si vous voulez savoir reconnaître ses qualités, certes, mais je ne suis attendue nulle part. Moi, j'habite dans une ville en province, une ville de l'Ouest, je ne suis attendue nulle part. Alors, c'est très difficile. Vous allez me dire, faites partie d'associations. J'ai fait partie d'associations.
Il y a des ateliers d'écriture aussi. Vous avez pensé aux ateliers d'écriture, puisque vous aimez ça, vous aimez l'écriture.
Oui.
Ça, c'est
non, je n'ai pas pensé. Je ne sais pas si c'est existant. Oui, vous avez raison. J'ai fait partie d'associations. J'assiste à des conférences ou des choses comme ça. Mais une fois que c'est terminé, au revoir madame, merci madame, c'est fini. Il n'y a plus rien. Hein. Chacun rentre chez soi.
Alors, pas toujours. Dans les ateliers d'écriture, les personnes échangent et c'est aussi comme ça qu'on peut se faire des amitiés, qu'on peut rencontrer d'autres personnes. Vous voyez ?
Oui.
Ça dépend beaucoup aussi de l'attitude qu'on a. Si on a une attitude d'ouverture, si on a envie, on finit par rencontrer du monde.
Oui.
Pardonnez-moi de vous poser cette question, Isabelle. J'ai un SMS qui me dit que vous avez déjà appelé la Libre Antenne. Ça vous est arrivé de nous appeler ? Ou c'est la première fois que vous nous appelez ?
Moi, c'est la première fois.
D'accord, c'est pas vous alors. D'accord.
Parce qu'un
SMS est arrivé en disant que vous aviez déjà appelé, alors vous avez certainement une femme qui a une voix similaire à la vôtre.
Oh non, c'est la première fois que vous m'avez au téléphone.
D'accord.
Oui, et c'est Sophie, en début de semaine, je ne l'ai jamais appelé non plus.
D'accord.
Non.
Bon, en tout cas, je pense qu'en effet, vous êtes arrivé au bout de cette histoire.
Oui.
Que vous devez prendre tout ce temps que vous avez consacré à cette histoire pour consacrer ce temps à vous maintenant. Et il est temps, vous avez 68 ans, qu'il est temps aussi de consacrer un peu de temps à vous. Et comme je vous le suggérais, des activités qui sont un peu intellectuelles pourraient aussi bien vous convenir.
Oui.
D'accord.
Mais pour ça, il faut que je me bouge, mais c'est vrai. Il faut que je me prenne en charge.
Vous avez été au bout d'une histoire, elle vous a apporté des choses aussi.
Oui, mais non.
Elle est étrange, votre histoire. En effet, elle est étrange, mais...
Oui,
mais
je ne reviens rien.
Voilà. Mais c'est la fin.
Voilà, c'est tout. On est arrivé au bout.
C'est la fin. C'est ce que vous semblez dire, en tout cas.
Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi, parce que je ne vais plus chez lui, mais même si je passe à côté, j'ai une boule au ventre. Lorsque je le rencontre, j'ai une boule au ventre. Et lorsqu'il vient chez moi, j'ai une boule au ventre. Comme le disait tout à l'heure Élodie, pourquoi cette peur, pourquoi cette crainte ? Une boule physique. Et c'est pas normal d'être comme ça. C'est pas normal. Moi, j'attends pas ça d'une relation avec un homme. J'attends pas ça du tout. Donc, bon. Oui.
Bon.
Je vous souhaite
plein de belles choses. Et puis, beaucoup de belles résolutions pour cette nouvelle année, Isabelle.
Je vous remercie de votre écoute, en tout cas.
Belle nuit à vous.
Merci, à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne.
Et c'est Clément qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Clément.
Oui, bonsoir Sabrina, merci de me prendre à l'antenne.
Merci d'être avec nous ce soir.
Voilà, donc moi je voulais témoigner, apporter un message positif un peu parmi cette fin d'année que je trouve difficile. Mmh. Il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup d'intolérance. Pour faire partager en fait une expérience que je vis depuis 2 ans maintenant avec ma compagne, c'est qu'on héberge des jeunes mineurs isolés, ce qu'on appelle les mineurs isolés, à la maison. Et donc voilà, c'est des jeunes qui sont en France, qui sont sur notre territoire, qui au début n'ont pas de papiers, n'ont pas de repères, n'ont pas de personnes adultes. Mmh. Et donc on les a hébergés, on les nourrit. Et on s'occupe un peu d'eux pour les aider, quoi, parce qu'ils n'ont rien. Donc voilà. Et puis on les aide dans les démarches. Et puis voilà. Puis c'est un message d'amour aussi, de tolérance, de solidarité.
Alors ça fait 2 ans que vous hébergez ces jeunes qui sont de passage chez vous, c'est ça ?
Oui, on en a 2 en permanence.
Comment cette idée est venue et quelle démarche avez-vous faite pour qu'ils viennent chez vous ? Pour que peut-être d'autres auditeurs se disent « Tiens, peut-être que moi aussi je pourrais le faire ».
Bah, l'idée, c'était tout simple. Enfin, un samedi, on n'avait pas grand-chose à faire. On a dit, tiens, il y a une conférence sur des gens qui s'occupaient des migrants. Mmh. On est allé. Et puis, on a vu des gens, moi, que j'ai jugé formidables, qui faisaient beaucoup de choses pour ces jeunes-là, justement, qui étaient bah, en bas de chez eux, en fait. Ça commençait bêtement comme ça. Des gens qui étaient à Paris, dans le 19e arrondissement.
Vous êtes à Paris vous-même, alors ?
Région parisienne.
D'accord.
Voilà, donc on a été en contact avec ces gens-là. Et moi, bon, j'étais pas trop chaud, en fait, hein, pour dire franchement les choses. C'est ma compagne qui a été motrice.
Pourquoi vous n'étiez pas trop chaud ? C'est intéressant parce que ça...
Alors, moi, j'étais pas trop chaud parce qu'accueillir des gens qu'on ne connaît pas à la maison, c'est-à-dire partager la salle de bain, partager, donner un lit. Mmh. Moi, je pars au travail, donc les savoir tout seul à la maison... voilà, moi, ça m'emballait pas.
Bien sûr, vous aviez peur.
Il va y avoir des problèmes.
Bien sûr.
Il va y avoir des difficultés. Bon, c'est des gens, évidemment, qui sont à la rue. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils sont en dehors de tout contrôle en France. Et bon, c'est des gens qui paraissent mineurs. Donc, nous, on a eu des jeunes de 13 ans, par exemple. On a eu des jeunes vraiment mineurs, qui sont pour la plupart traumatisés. Mais vraiment traumatisé psychologiquement parce que, bon, ils ont vécu. Il y en a un qu'on a eu qui était en Libye, qui a été dans les prisons libyennes. Il nous a montré ses cicatrices où il a été blessé, donc il a été esclave pendant 9 mois. Il y en a d'autres qui ont été battus en Algérie, par exemple. Donc voilà, et ces gens-là nous disent bon, on comprend pas quand on prend le métro, on se fait pas taper dessus ici en France. Alors on leur explique que ici on est dans un état de droit, qu'on tape pas les gens comme ça. Parce qu'ailleurs, c'est ce qu'ils ont vécu. Vous voyez, ils sont complètement. Le jeune qu'on a eu de 13 ans, il était complètement traumatisé. Le 14 juillet, par exemple, le bruit des pétards, ça lui a fait peur vraiment. Ça lui a rappelé la guerre. Et donc là, c'était ce genre de difficulté que j'appréhendais. Et puis après, c'est quand même une responsabilité parce qu'on les a sous notre toit, donc il faut s'en occuper. Moi, j'avais qu'une trouille, par exemple, c'est qu'ils tombent malades. Parce qu'on a eu le cas, et là, on n'a pas, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a rien pour eux, puisqu'ils n'existent pas au niveau de la France.
Bien sûr.
Et donc là, moi, c'était ma grande crainte. On a fait venir SOS Médecins. SOS Médecins nous disait, moi, je ne touche pas à ça, ils n'ont pas de. C'est pas mon rôle. Donc voilà, ça a été très compliqué. Donc il faut passer par des associations. Il y a SOS, il y a Médecins du Monde qui s'en occupe, mais c'est très compliqué. Donc voilà, donc le but, c'est de les faire reconnaître en tant que mineurs isolés. Et après, une fois qu'on a fait toutes les démarches, puis c'est des démarches qui durent très longtemps avec des avocats pour reconnaître la minorité. Une fois que la minorité est reconnue, c'est une étape de franchise, puisqu'en fait, ils sont pris plus ou moins en charge par l'ASE, hein, donc l'aide sociale à l'enfance, qui est après, donc ils existent. Et puis, bon, il y a une aide quand même, il y a une assistante qui est avec eux, qui les guide plus ou moins. Mais il y a toute cette démarche-là, donc pendant un an, ils n'ont rien, quoi, en fait.
Donc vous les gardez un an chez vous ?
Non, il n'y a pas de règle.
D'accord.
Il n'y a pas de règle. Hein. Donc, on a eu, par exemple, ils sont restés très peu de temps. Ils sont partis du jour au lendemain sans nous dire. On en a eu d'autres parce que pour ces jeunes, si vous voulez, il n'y a pas de problème, par exemple, pour trouver des vêtements, il n'y a pas de problème. Pour trouver, même, je dirais, un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Les gens donnent. Par contre, l'hébergement, c'est un problème crucial. Parce que nous, on les a eus. Enfin, moi, je me souviens très bien comment ça s'est passé. On a pris un contact comme ça au hasard, un 06, on a téléphoné. Et une dame nous a dit, un dimanche soir, elle nous a dit, bah oui, moi j'en ai plein à la maison, venez chez moi. Elle nous a donné une adresse, on est allé dans un appartement, donc une dame qu'on ne connaissait pas. On est rentré, effectivement, il y avait peut-être une dizaine de jeunes chez elle. Il y en avait partout, donc par terre, sur le canapé. Elle nous dit, bah oui, c'est très bien ce que vous faites, donc moi je vous en donne deux. On en a pris deux, comme ça. On est reparti de l'appartement, on en a pris deux au hasard. Hein. On les a mis dans la voiture, on les a mis chez nous. Voilà, donc on a fait connaissance, les gens ne disaient rien dans la voiture, enfin les jeunes ne disaient rien dans la voiture, c'est assez étonnant. Puis on les a installés dans une chambre, et puis petit à petit, bon, ils étaient très intimidés, donc voilà, on les a installés, puis après, bon, ça s'est amélioré, mais voilà. Et moi, je dois dire que c'est des gens qui étaient à la rue, hein. Franchement, on la voyait, il fait froid, il y en a plein qui sont des jeunes, hein, vraiment très jeunes, qui sont à la rue, qui sont sans personne, qui sont agressés. Et moi, je dois dire que bon, on est dans la vie, on est installé avec ma compagne, donc voilà, on n'a pas de problème matériel. Et pour nous, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. C'est vraiment donner un peu de nourriture le soir. Ils sont pas, la plupart qu'on a eu, c'était vraiment pas difficile. C'est-à-dire que leur donner la possibilité de se laver et les héberger. C'est pas grand-chose pour nous, mais pour eux, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et donc moi, je suis très très emballé parce que j'étais très, très, très timide au début sur la démarche. Et finalement, c'est que du positif. Ce qu'on reçoit en retour, c'est énorme. énorme parce que nous, on n'a pas d'enfants, par exemple, et bon, ils nous appellent papa, maman. Enfin, pour nous, c'est vraiment... Et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Les gens nous disent, oui, mais vous avez plein de problèmes, vous risquez d'être volé, tout. On n'a jamais eu de problème de violence, ni de vol, ni quoi que ce soit. Au contraire, il y en a... On leur fait vraiment confiance. Voilà, c'est que du bonheur, quoi. Et c'est des gens très volontaires, en fait, qui veulent vraiment s'intégrer. Là, on en a un qu'on suit particulièrement. On l'a depuis un an avec nous, mais on a une démarche d'apprentissage. Oui. Et les patrons sont très contents. Là, je suis un boulanger, le boulanger me dit mais j'en reviens pas. Je lui dis d'être là à 5h le matin. Il est là à 5h, il se débrouille avec des bus de nuit, tout ça, mais il est là au rendez-vous. Alors que à son âge, les gens me disent c'est trop loin, c'est fatigant. Même les parents disent pour mon enfant c'est trop dur et tout. Mais eux, ils sont très très volontaires. Chaque fois, on a que des compliments sur, en plus des métiers que les autres ne veulent pas faire. Eux, ils sont très volontaires pour être cuisiniers, pour être boulanger, enfin vraiment, c'est des boulots qui nous manquent en France, quoi. Donc voilà, et moi je dirais que c'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup. Nous, ça nous fait par rapport à ce qu'on connaît en France, on relativise beaucoup les choses par rapport à ce qu'ils nous racontent, la situation de leur pays, la situation de guerre, celle qu'ils ont connue, hein, les coups, l'emprisonnement, le statut d'esclave qu'ils ont eu pour la plupart. Ce qu'ils ont vécu, si jeunes, de vivre tout ce qu'ils ont vécu, hein, c'est-à-dire, il y en a, par exemple, qui ont mis 2 ans pour arriver en France. Voilà, mais ça, ils ne le racontent pas d'emblée, ils le racontent, c'est au bout de mise en confiance qu'ils se confient, parce qu'ils sont très, très réservés sur le sujet, quoi.
Voilà. C'est une belle initiative, en tout cas, Clément. On peut peut-être donner le nom de l'association qui s'occupe du placement de séminaires.
Il n'y a pas réellement de service établi. C'est que du bouche-oreille. Il y a beaucoup d'associations. Il y a une plateforme sur Facebook qui s'appelle plateforme d'aide aux réfugiés.
D'accord.
Voilà. Et donc les gens peuvent aller dessus. Et forcément, il y a beaucoup beaucoup de demandes parce que nous au début, par exemple, quand on partait en vacances, on avait beaucoup de mal. On voulait pas laisser tout seul dans l'appartement. Et on avait beaucoup, beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptaient de nous relayer au niveau de l'hébergement, quoi. Donc, ça nous posait problème. Maintenant, bon, il y en a un qu'on connaît bien, donc on lui laisse les clés, on peut partir sans problème. Mais bon, au début, on ne voulait pas laisser les gens tout seuls dans l'appartement, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Mais c'était pour dire voilà, que moi, j'étais très réticent et que ça ne coûte rien, ça nous apporte beaucoup. Et que ça nous coûte pas grand chose, et ouvrir le cœur et sa maison comme ça, c'est vraiment formidable parce que, en retour, vraiment, on a beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Et je trouve que c'est très, très enrichissant. Et je le tenais à le dire au moment de Noël, justement, au moment de cette période de fin d'année où c'est toujours un peu délicat pour certaines personnes qui se retrouvent toutes seules et tout. Moi, je veux dire que, franchement, il y a des gens qui sont très démunis, qui n'ont rien, mais rien, qui ne se plaignent pas trop sur le sujet et qui sont très contents de peu de choses, quoi. Un hébergement, un peu de nourriture, des fois, c'est vraiment énorme pour eux et pour nous, franchement, vu le niveau qu'on a en France, parce qu'il faut relativiser ça aussi, hein. Les gens se plaignent ici, mais franchement, quand on va voir, moi je voyage beaucoup par ailleurs, chaque fois que je reviens en France, je me dis, mais quand même, les gens se plaignent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a ailleurs, quoi. Moi je voyage beaucoup en Amérique du Sud, en Asie, chaque fois que je me dis en France, on n'est pas si malheureux que ça, finalement. Il y a beaucoup, c'est vrai, de difficultés, il y a beaucoup de... Je ne le dis pas, mais franchement, quand on voit ailleurs... On a accès aux soins, on a l'accès à l'éducation, on a l'accès à la culture, il y a plein d'associations, il n'y a pas de conflits, il n'y a pas trop de guerres, les gens ne se tapent pas dessus pour un oui, pour un non. Voilà, il faut quand même regarder un petit peu positiver, regarder un peu ce qu'on a et se
en
dire
tout cas, en tout cas, la démarche que vous faites vous y aide à positiver aussi.
Ah bah énormément, ouais. Énormément, c'est parce que ça me fait prendre conscience que si jeune... ce sont vraiment des gens très... Encore une fois, il y en a un qui devait avoir 13 ans. Je me dis quand même, à 13 ans, avoir vécu tout ce qu'il a vécu, être passé par là où tout est passé, se faire taper dans certains pays, se faire emprisonner, vivre dans des conditions, bon, je n'ose même pas imaginer. Voilà, c'est très dur, quoi. C'est vraiment épouvantable de vivre des choses pareilles si jeunes.
Et puis, en offrant comme ça votre hospitalité, vous leur redonnez aussi foi en l'être humain ? Alors oui, que certainement souvent ils l'ont perdu cette fois-là.
Curieusement, c'est des gens que je trouve très forts psychologiquement, vraiment, parce que à leur âge, c'est très fort ce qu'ils ont vécu et c'est des gens qui veulent vraiment s'en sortir. Il n'y a pas, pour moi, des situations très difficiles, mais il n'empêche qu'ils sont, ils ont la foi, quoi. Ils veulent y arriver, ils s'accrochent vraiment. Moi, je peux vous dire, on est étonné, on est bluffé chaque fois. On en a eu un, par exemple, il nous a parlé de Georges Sand. Voilà, c'était, alors moi, ça m'a bluffé, quelqu'un comme Cécilienne qui nous parle de Georges Sand, on se dit, mais ouais, il s'accroche, quoi. Il veut apprendre. Là, il y en a un, il nous pousse tout le temps vers une bibliothèque, donc on l'inscrit dans une bibliothèque, il prend des livres, donc on choisit les livres ensemble et tout. Et chaque fois, il nous dit, ce mot-là, je ne comprends pas, etc. Mais c'est vraiment, enfin, moi, je suis vraiment très, très impressionné.
Vous êtes impressionné par... Oui. Par cette volonté de vivre, oui. Et cette volonté de...
Et ce courage, c'est surtout de ne jamais se plaindre. Ouais. C'est ça, moi, qui me surprend. Ils sont contents de tout, en fait. Le peu qu'on fait... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, parce que c'est un combat tous les instants. L'administration, c'est très difficile. Trouver des patrons, on est dans une situation un peu kafkaïenne, c'est-à-dire que là, on nous dit, bah oui, mais il faut qu'ils trouvent un employeur, mais l'employeur ne va pas le prendre s'il n'y a pas des papiers, mais il n'y aura pas de papiers, donc il n'y aura pas d'employeur. Enfin, tout est compliqué. L'apprentissage, c'est pas simple aussi. Alors, on a trouvé quand même des gens qui veulent avancer, donc on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. On a fait intervenir des politiques aussi, parce que tout le monde non plus n'est pas fermé sur le sujet. Il y a des gens qui veulent avancer avec nous. Autour de ça, il y a beaucoup d'associations, je trouve. Hein, maintenant que je connaissais pas du tout ce milieu-là, mais maintenant que je le connais, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ces jeunes-là, et qui sont en association, qui aident vraiment à tous les points de vue. Il y a des avocats, par exemple, qui donnent bénévolement du temps. Il y a des juristes qui aident aussi.
Je crois qu'on peut tous faire quelque chose, en fait. On peut tous faire quelque chose à notre mesure. Pour certaines personnes, ça sera difficile de partager leur habitation, leur logis, oui, parfois aussi parce qu'on a des petits logements et c'est compliqué. Mais il y a plein d'autres choses à faire.
Nous, c'est un petit logement, donc nous, on ne peut prendre que deux. Nous, c'est un petit logement. Région parisienne, c'est très cher. Et oui, donc... voilà, et on n'a pas tellement d'espace, mais voilà, nous, en fait, quand ils sont avec nous, on ne fait plus du tout attention à l'espace qu'ils nous prennent, finalement, puisque c'est que la relation
est tellement... C'est le cœur qui s'élargit.
Ah oui, complètement. Les
murs sont petits, mais le cœur est large.
Ah oui, c'est ça. Et puis même partager un repas, c'est du bonheur. On cuisine ensemble, ils veulent apprendre à cuisiner à la française. Rien que ça, déjà, c'est vous rentrez chez soi, chez vous à la maison, peut-être tout seul devant la télé. Là, vous avez quelqu'un, vous discutez, vous échangez. Voilà, en fait, pour moi, c'est une expérience très positive. Et encore, effectivement, comme vous le disiez, tout le monde peut faire quelque chose à sa portée. Et le peu qu'on fait, c'est beaucoup pour eux. Vraiment.
Et c'est beaucoup. Et c'est important de le dire aussi. C'est beaucoup pour eux. Finalement, c'est beaucoup pour vous aussi. C'est beaucoup pour tous ceux qui aident aussi. Et ça, c'est aussi important de le dire. Souvent, on a des témoignages de personnes qui se sentent seules et isolées, qui appellent la libre antenne. Et parfois, il suffit aussi d'ouvrir un peu son cœur à l'autre pour que ce sentiment d'isolement s'en aille.
Ah oui, complètement. Enfin, moi, j'étais déjà de toute façon très investi socialement. Bon, ça, j'ai jamais eu de problème de solitude parce que je fais beaucoup d'associatifs par ailleurs. Mais cette problématique-là de jeunes isolés venant de l'étranger, je la connaissais pas. J'étais sur d'autres sujets, donc l'alphabétisation, des choses comme ça, vous voyez, qui étaient avec des gens bien établis. Déjà, il n'y a pas cette histoire d'hébergement, cette histoire de...
Il y a beaucoup de choses à faire à chaque niveau, en tout cas.
Oui, oui. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut sortir des préjugés, il faut sortir tout ça. Voilà, parce que des préjugés, je pense que des fois, ils se créent parce qu'on ne connaît pas les gens réellement, qu'on ne fait pas attention, mais dans la discussion et tout, finalement, c'est sûr qu'on est différent, on a des cultures différentes, on vient de pays différents, mais au final, l'humain est là, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Nous, on se comprend, et vraiment, je pense que. Moi, je vous dis, ils nous aiment, quoi, ces gosses-là. Ils nous aiment, nous, on les aime, et ils nous aiment. C'est-à-dire qu'ils nous appellent papa, maman chaque fois, et c'est ça qui nous fait chaud au cœur, quoi.
C'est un magnifique témoignage, là, que vous nous apportez pour cette période de fête, Clément. Vraiment.
Bah oui, je voulais l'apporter parce que je trouve que les fêtes de fin d'année, des fois, c'est triste.
C'est un magnifique témoignage et qui peut inciter beaucoup de personnes à avoir la même démarche. Donc, merci beaucoup de nous avoir appelés.
Mais vous savez, maintenant, moi, quand je prends le métro, on est souvent sollicité. J'ai un autre regard sur les gens qui dorment dehors, par exemple. Vous voyez, j'ai un autre regard là-dessus.
Mais oui, parce que ce qui fait peur, c'est toujours ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc, à partir du moment où on connaît, on n'a plus peur. Et à partir du moment où on n'a plus peur, on peut tendre la main.
Oui.
Merci beaucoup. Merci Clément pour toutes ces paroles en tout cas et votre appel. Merci.
Belle nuit à vous. Belle nuit à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne.
Et c'est Nicole qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, je voulais simplement dire à Clément, franchement, je l'admire.
Oui.
Parce que j'ai entendu son témoignage, franchement, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, parce que si je pouvais le faire, je le ferais, franchement.
Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de personnes extraordinaires sur cette terre, en fait, vous voyez, pour des raisons très différentes. Donc
oui,
c'est important
non,
aussi
c'est
de
vrai.
Voir le beau aussi dans notre société, dans notre humanité, et pas toujours que la
c'est
noirceur.
Vrai. Exactement, je suis bien d'accord.
Qu'est-ce qui vous amène à nous appeler, Nicole ? Parce qu'il nous reste très peu de temps. Et comme je sais que vous avez attendu, c'est pour ça que je vous ai prise à l'antenne. Je ne voulais pas que vous ayez patienté pour rien. Dites-nous.
Non, mais au contraire, ce que vous m'avez fait attendre, j'ai appris beaucoup de choses là.
Bon, alors c'est formidable. C'est
ça
formidable.
Ça m'a fait plaisir.
Bon, alors
non,
c'est,
moi je vous appelais simplement parce que j'ai un gros souci avec mon fils,
oui.
qui a 47 ans. Moi, j'en ai 69. Et... c'est un garçon qui est gentil comme tout, hein, il n'y a pas de souci. Mais il est diabétique, épileptique et complètement en dépression. Mais alors, à un point pas possible. Là, parce qu'il ne travaille pas. Il ne voit plus sa fille qui a 20 ans, qui a pris 20 ans. Et, bon, il vit avec moi et je ne sais plus quoi faire. Il est en dépression. Alors, je l'ai envoyé plusieurs fois en CMP. Pour le remettre en forme, mais il veut plus rien savoir, il veut plus rien voir, il veut plus. Il m'a dit j'aime plus la vie, de toute façon je m'en fous. Et alors, comme il est diabétique et épileptique et il mange plus, je ne sais plus quoi faire.
Donc il est en danger, il met sa santé en danger.
Ah bah complètement. Ouais. Et j'ai fait venir un médecin l'autre fois, et il y a 15 jours. Et le médecin m'a dit, mais je ne vais plus en voir. De toute façon, il lui a dit, mais je ne veux pas vous voir. De toute façon, j'en ai la foutre de la vie. Et le médecin ne m'en a pas dit plus, mais il m'a dit, bon, de toute façon, je ne le reverrai pas. Je ne reviendrai pas le voir. Donc, je ne sais plus quoi faire.
Non.
Je ne sais plus quoi faire.
Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie ?
En CMP, oui, parce que les centres médicaux psychologiques, mais ça fait plusieurs années, quoi.
Parce que s'il est en danger, Nicole, vous pouvez demander une hospitalisation sur demande d'un tiers, vous le savez, ça ?
Ah non, je ne savais pas.
Bon. Donc, vous...
Ah bah c'est ce que je vais faire.
Bah oui, vous demandez une hospitalisation sur demande d'un tiers.
D'accord.
D'accord. Vous pouvez le faire même sans son consentement à lui.
Bien sûr.
Voilà.
Ah oui,
il faut
parce qu'il ne voudra pas de toute façon.
Donc c'est une hospitalisation en psychiatrie où on va prendre en charge aussi ses problématiques de santé.
D'accord.
Mais à partir du moment où quelqu'un se met en danger ou met en danger autrui, on a le droit de demander cette hospitalisation contre son gré.
D'accord.
Donc, vous devez faire appel pour ça à un psychiatre.
Ah, oui.
Voilà. Qui va signer cette demande d'hospitalisation.
D'accord. Bon, il faut que je cherche un psychiatre, là. D'accord.
Voilà. Mais ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant.
Ah, mais je ne savais pas du tout.
Il y a deux types d'hospitalisation que l'on peut avoir dans les cas où la personne malade ne veut pas être hospitalisée. C'est l'hospitalisation d'office. L'hospitalisation d'office, ça va être la police, les pompiers qui vont la décider.
Oui.
Et l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Alors, pour pas
Oui, parce que tout à l'heure, il était tellement mal que je lui écoute, j'appelle le 15. Mais le 15, ils m'ont bien dit, s'il n'est pas d'accord, on ne peut pas le prendre.
Non, non. Mais là, c'est en psychiatrie qui sera interné.
Oui, non, mais je crois qu'il a besoin d'être en psychiatrie parce qu'il ne va pas du tout, psychologiquement, ça ne va pas du tout. Il se détruit complètement, quoi. Donc...
Non, mais voilà, et ça, c'est vraiment important. Donc, alors, ensuite, il sera examiné par un médecin aussi de l'hôpital. Puisqu'aujourd'hui, pour éviter les abus, c'est-à-dire qu'avant, il y avait évidemment des abus dans ces hospitalisations,
Hein. Ouais. On faisait hospitaliser comme ça des personnes. Bon, je vous parle de ça au 19e siècle. On faisait hospitaliser personnes pour récupérer l'héritage. Hein. On les mettait comme ça sous tutelle pour récupérer l'héritage. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que les hospitalisations se font avec signature de plusieurs médecins. Hein, il faut que les signatures soient concordantes pour pouvoir hospitaliser quelqu'un. Mais dans ce que vous m'expliquez là, il se met en danger. Il est diabétique, il est épileptique, il est très dépressif, il ne se nourrit plus. À mon avis, vous n'aurez aucun mal à le faire hospitaliser, même sans son consentement et pour son bien.
Donc, il faut là que je voie un psychiatre d'abord.
Il faut que vous trouviez un psychiatre, il faut appeler un psychiatre de votre région. Vous pouvez aussi vous renseigner directement à l'hôpital psychiatrique de votre région.
D'accord.
Voilà. Parce que vous êtes où là? Vous êtes sur Paris?
Je suis en Île-de-France.
En Île-de-France.
Oui.
D'accord. Parce que vous n'avez
dans
pas toujours.
Yvelines.
Oui. Alors, dans les Yvelines, c'est un peu plus compliqué. Parfois, il n'y a pas de médecin qui se déplace directement à domicile. Mais.
Ah oui, ça je sais, parce que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu qu'SOS médecin. Et justement, ce SOS médecin était très bien.
Oui.
Et il m'a dit, je ne reviendrai pas parce qu'il ne veut plus me voir et il ne veut pas.
Sauf que SOS médecin, parfois les médecins ne veulent pas prendre la responsabilité de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, tout simplement parce qu'ils ont peur ensuite d'avoir des procédures. Donc ils ne font pas non plus leur travail parce que dire je ne reviendrai pas vis-à-vis d'un médecin, ça ne va pas. Vous voyez ? C'est rôle d'un médecin.
C'est pour ça que j'ai pas compris.
Bon, Nicole, je voulais vous dire ça. Oui. L'émission se termine. Je suis obligée de vous dire au revoir tout de suite, mais voilà, je vous ai dit l'essentiel en tout cas pour pouvoir, j'espère vous aider pour la suite. Merci Nicole pour votre appel.
Bah écoutez, c'est gentil. Merci
de m'avoir appelé. Je vous souhaite une belle nuit. Belle nuit à vous.
Mais vous aussi, merci.
Merci. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 23h pour une nouvelle soirée de Libre Antenne. Merci à vous pour tous vos messages, pour tous vos SMS, pour tous vos appels. Belle nuit. Vous êtes sur Europe 1, il est 1h du matin.